31. Quelques notes de classique à présent. Brahms ce matin et son concerto pour piano numéro 2, composé 20 ans après un premier concerto, bien fougueux d'ailleurs, qu'il avait surnommé le jeune. On écoute tout ça.
Je sais pas vous.
C'est.
Ça parle de quoi?
Ah, ça parle de musique.
Ça parle de quoi?
Ça parle de vous. L'ironie, c'est quand même pratique. Car ça permet de prendre la critique de court avant qu'elle n'arrive. Le jeune Brahms avait composé un premier concerto pour piano, bien fougueux, et l'avait surnommé « le jeune ». 20 ans plus tard, Brahms a deux attributs supplémentaires. La barbe, il dit « si vous êtes rasé de près, les gens vous prennent pour un acteur ou un prêtre ». Et le bide, il dit « rien à ce propos-là ». Ces deux attributs donnent à Brahms la forme suivante. Une forme qui trouve clairement son centre de gravité, pas là, ni là, mais là, dans une bonne assise chaleureuse au fond du bassin. Eh bien, son deuxième concerto, que Brahms surnomme l'adulte, il aura le même centre de gravité que lui. Et parmi les instruments de l'orchestre, qui vont du plus aigu au plus grave, il est donc logique que Brahms choisisse la noblesse du corps pour ouvrir son deuxième concerto. Quelle majesté! Et quelle chaleur! Brahms, c'est la stabilité incarnée. Sans perdre son assise solide, il peut traverser la noblesse des paysages italiens où il a passé du bon temps. Mais aussi les bourrasques du nord de l'Allemagne, dont il aimait les légendes, des légendes qui claquent au vent. Il peut traverser la tendresse absolue des bras qui se croisent, comme les phrases entrelacées d'un violoncelle et d'un piano. Et sans perdre son assise, traverser les fêtes des gitans, où Brahms n'est pas du genre à danser sur la table, mais aime être. L'ironie est une chose bien pratique. Ayant achevé une partition immense et solide, le concerto le plus imposant du 19e siècle, Brahms écrit « Je viens de finir un concerto minuscule. » Alors que certains concertos ont plus de notes encore, oui. Mais aucun n'est plus grand.
Voilà, c'était Je sais pas vous, formidable pépite pour mélomanes avertis ou non, à réécouter évidemment sur ovio.be. Il y a 44 ans, jour pour jour, disparaissait sans doute la plus grande chanteuse du monde arabe, un monument de la musique orientale, Oum Kalsoum. Un jour dans l'histoire du monde, c'est à suivre dans un court instant.
7h-9h,
week-end première. Des questions au sujet du nouveau régime d'allocation familiale?
Attendez, je vous suis plus. Il y a eu du changement, quoi?
Oui, mais pas de panique. Vous trouverez toutes les infos sur parentia.be.
Nous sommes le 3 février 2019, le même jour, il y a 44 ans, un monument de la musique arabe s'est éteint, provoquant une vague d'émotions sans pareil dans tout le Moyen-Orient. Plus de 2 millions de personnes descendent dans les rues du Caire pour un dernier au revoir à la chanteuse égyptienne Oum Kalsoum, qu'on surnommait évidemment l'astre d'Orient. 44 ans après sa mort, elle est toujours considérée comme la plus grande chanteuse de l'histoire contemporaine du monde arabe. Pour en parler, nous rejoignons sans plus tarder François Oum Ferkataji, notre correspondant au Caire sur place. Bonjour François.
Bonjour Sophie.
Alors dites-moi, les obsèques d'Oum Kalsoum ont été un moment historique dans l'histoire du pays ?
En effet, si l'on nommait la mort du président égyptien Gamal Abdel Nasser quelques années plus tôt, jamais autant d'Égyptiens ne sont sortis dans les rues, pas même lors de la révolution de 2011 ou des grandes manifestations de 2013. Pourtant, le pays était deux fois moins peuplé à l'époque. Rendez-vous compte, 2 millions de personnes qui précipitent leur chagrin dans les rues de la capitale et suivent le cortège funèbre d'Oum Kalsoum, son cercueil porté à bout de bras par la foule, des hommes et des femmes en pleurs. Alors pourquoi une telle émotion ? eh bien celle que l'on surnomme l'Astre d'Orient ou la quatrième pyramide, a dominé la chanson populaire égyptienne pendant près de 50 ans. Elle est dans le cœur des Égyptiens et des Égyptiennes qui ont rendez-vous chaque semaine avec elle. Tous les jeudis soirs, on se rassemble dans les cafés pour l'écouter chanter à la radio nationale. Une musique chargée de passion, extrêmement bien orchestrée, où la voix d'Oum Kalsoum glisse comme une longue complainte. Une voix qui flotte au-dessus des hurrahs de la foule en transe. Une forme de lamentation heureuse, une catharsis hebdomadaire. Il est le plus souvent sujet d'amour, la douceur, la souffrance, les regrets qui y sont liés. Et il n'est pas plus grand gâchis que ce jour passé sans amour ni désir, chante Oum Kalsoum, qui travaille en collaboration avec les plus grands artistes du pays. Le grand poète égyptien Ahmed Rami lui écrit par exemple 37 chansons. Oum Kalsoum a su également conquérir le cœur des Égyptiens en raison de son parcours exceptionnel dans une société de caste où il est pratiquement impossible de s'élever socialement. Elle a su s'imposer par la seule force de son talent. Petite fille pauvre et illettrée d'un village du delta du Nil, qu'il a fallu habiller en garçon à ses débuts, elle devient la chanteuse de la République.